Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, une émission un peu spéciale. Bah oui, on en fait plein des émissions spéciales cette saison, c'est formidable. Mais parce que un livre est sorti il y a quelques semaines et on ne pouvait pas passer à côté parce que ce livre, c'est celui d'Alexandre Serrel. Bonjour Alexandre, qui nous fait le plaisir d'être là. Et c'est l'histoire de Tomb Raider aux éditions Pix and Love. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de voir un livre et surtout un bon livre parce que je ne te félicite pas Alexandre, j'ai raté déjà deux stations de métro à deux reprises, j'ai raté ma station de métro parce que j'étais là, ok alors Toby Gard, il va partir de... Oh là 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 là. Voilà, donc ça a été un gros problème, tout ça pour dire que l'histoire de Tomb Raider est un livre qui se lit et c'est déjà énorme, c'est un livre qui se dévore et c'est un vrai plaisir et c'est surtout, voilà, on a tous, en tout cas tous les joueurs qui étaient en âge de jouer en 1996 ont une histoire avec Tomb Raider, je pense. C'est un jeu charnière, je trouve, moi, pour ma part, dans l'histoire du jeu vidéo. Et donc, revenir sur sa création, comment ce personnage, cette licence a évolué à travers les âges, c'est vraiment passionnant. Et voilà, et donc en fait, cette émission va être donc consacrée à ce livre et évidemment au sujet de ce livre, Lara Croft et Tomb Raider. Déjà, avant de commencer l'histoire de Tomb Raider, j'aimerais bien ton histoire à toi, ouais. et d'où tu viens et comment tu as été amené à écrire ce livre et à écrire un livre aussi, parce que d'après ce que j'ai compris, c'était pas forcément évident, voilà, et à écrire ce livre.
C'est arrivé un peu comme ça, c'est-à-dire que moi je suis à la base fan de jeux vidéo et je suis fan d'une série qui s'appelle Double Dragon. Et en fait, Pix and Love a fait la biographie de Yoshihisa Kishimoto et il était invité à la Japan Expo 2012. Donc moi, j'ai été voir Yoshihisa Kishimoto pour avoir une dédicace et voilà. Et je suis arrivé sur le stand de Pix and Love et ils venaient de sortir un livre qui s'appelait le livre qui est sur Final Fantasy VII. Et je me suis dit, il faudrait faire quelque chose sur Tomb Raider. Donc du coup, je leur ai dit, est-ce que vous avez quelque chose de prévu sur Tomb Raider? Ils m'ont dit non, mais il faudrait le faire. Et en fait, bah, c'est comme ça que ça a un peu commencé, que l'idée a germé dans ma tête. Et
parce que ton parcours avant, c'est...
Le seul parcours que j'ai en rapport avec le jeu vidéo, c'est que j'ai fait une formation de testeur assurance qualité dans le jeu vidéo. Et c'est la seule expérience que j'ai. J'ai pas d'expérience de journaliste, en fait.
T'as pas d'expérience d'écriture?
Non.
T'as pas de...
Non, non.
Parce que t'es en train de... Enfin, juste pour dire que c'est un vrai boulot, c'est un bouquin d'enquête en fait. C'est pas un bouquin où tu racontes à partir de documents qui préexistaient et tout ça. T'as pris le sujet Tomb Raider tu l'as pris à bras le corps et tu as dit j'allais chercher les infos moi-même, je vais découvrir moi-même comment.
En partant en Angleterre, en allant partout, j'avais mon petit carnet, à chaque fois que j'avais une idée, je notais et puis je me disais hop, faut que ça soit dans le livre.
Et ça t'a pris combien de temps?
Deux ans.
Deux ans d'enquête.
Deux ans d'enquête, et puis surtout, il y a eu une première version du livre qui était finie au bout d'un an, mais elle ne me plaisait pas du tout. En fait, c'était pas encore ce que je voulais, c'est pas ce que j'avais en tête. En fait, je me disais, si on sort ça comme ça, c'est pas bon. Donc du coup, j'ai supprimé tout ce que j'avais fait depuis un an, et j'ai recommencé à zéro. Et je me suis dit, ça y est, là, je me laisse une année pour tout réécrire et que tout soit parfait comme je voulais.
Le personnage, tu l'as dit, Tomb Raider, et le personnage de Lara Croft, mais alors pourquoi?
Parce que... Quel
attachement?
Moi, j'ai un très très gros attachement au tout premier Tomb Raider. C'est un jeu que j'ai découvert dans une période assez étrange de ma vie, parce que j'étais jeune, j'avais 10 ans, et en fait, mes parents venaient de divorcer. Donc c'est pas super évident comme période, et en fait, j'ai eu une Sega Saturn avec Tomb Raider. Bon, j'ai joué déjà aux jeux vidéo avant, et ça a été une baffe, mais une claque, il se passait quelque chose, quoi. Quand on vit des moments difficiles comme ça, on joue à un jeu, et on se dit, ouais, ça va mieux, et finalement, on tombe amoureux du jeu, et voilà, quoi. il est derrière justement, et ouais, ça me rappelle beaucoup de souvenirs.
Et alors, comme disait Erwan, effectivement, c'est un jeu, enfin, moi j'aime beaucoup ce livre, je le trouve très bien écrit. Quoi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup comment tu as mis en perspective en fait, le personnage de Lara Croft et aussi vraiment la création de Lara Croft, comment elle est née. Bah, ce sont des gens derrière quoi, oui. Voilà, qui l'ont fabriqué. Ça, c'est vraiment un côté très humain, très oui. dans ce livre que j'apprécie beaucoup. Et donc, tu as effectivement fait rassemblé beaucoup de personnes, fait beaucoup d'interviews, à peu près une vingtaine, je crois que ouais, c'est une vingtaine. Ça, ouais. Est-ce que tu peux, donc des personnes de Core Design oui. et puis aussi de Crystal Dynamics?
Non, pas de Crystal Dynamics.
Core Design,
non,
d'accord.
C'est très compliqué Crystal Dynamics parce que plein de choses, quoi. C'est-à-dire que je pense pas qu'ils aiment être liés à l'histoire de Core Je pense qu'aujourd'hui, ils aiment bien que tout soit différencié. Et voilà, non, Crystal Dynamics, non. En fait, j'ai récupéré beaucoup d'informations moi-même, mais pas d'interview au direct. Même ouais. si j'ai eu un contact avec Crystal Dynamics. Ouais.
Alors, est-ce que tu as eu facilement, comment dire, enfin, tu as retrouvé facilement ces personnes de Core Design?
Non, c'était très dur parce qu'en fait, leur nom, à part Toby Gard, quelque part qui est très connu parce que c'est lui qui a créé le personnage. À côté de ça, les autres, on les connaît pas. C'est-à-dire que moi, déjà, c'était presque, je partais en me disant, j'adore Tomb Raider, c'est un de mes jeux fétiches, mais il va falloir que je pose des visages et des noms sur des personnes qui ont fait un jeu, quoi. Et je sais pas combien ils sont. Il y a eu beaucoup d'intox à l'époque dans la presse. C'est-à-dire que, je me rappelle d'une où il disait que toute l'équipe de Tomb Raider 1 était partie. Donc moi, je suis parti un peu avec cette information-là au départ et je me suis dit, non, en fait, ils étaient que deux à être partis après le premier Tomb Raider. Donc voilà, il fallait mettre des noms. Il fallait comprendre ce qu'ils faisaient chacun leur poste en fait voilà chacun su mettre sa brique pour faire Tomb Raider quoi.
Et oui ce que tu disais sur l'aspect charnière l'aspect marquant de ce premier Tomb Raider, je pense que bon, toi tu avais 10 ans, moi j'en avais un peu plus, moi c'était j'étais content, c'était avec mes premiers salaires où je m'étais acheté la PlayStation, mais il y avait quelque chose où cette impression de jouer à quelque chose qui n'existait pas avant. Oui. Et même quand on est reconfronté aujourd'hui au premier Tomb Raider, on se dit que bah, ça a été le précurseur du jeu moderne. En fait.
C'était
presque avant Tomb Raider, c'est la préhistoire, et l'histoire moderne du jeu vidéo commence avec Tomb Raider.
Il y en a qu'un qui lui ressemble un petit peu, c'est Fate to Black. Qui lui ressemble tout petit peu. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un des créateurs de Fate to Black complètement rien à voir avec Tomb Raider. Et on s'est mis à parler Tomb Raider. Il m'a dit, nous, on était 40 sur Fate to Black. Et eux, ils étaient que 6.
Voilà.
Et ils nous ont mis, la misère. Quoi. Ouais. Ils ont fait un jeu qui était largement meilleur que le nôtre. Quoi. Et oui, il a déjà beaucoup de codes en fait, des jeux actuels. Tout est à peu près là déjà, même s'il y a encore des choses un peu à modifier. Mais il y a beaucoup de choses dans Tomb Raider. Ils ont créé, en fait, ils ont lancé quelque chose... Ouais, voilà. Dont les codes sont toujours là à l'heure actuelle.
Et donc, pour commencer avec le début du livre, il fallait évidemment expliquer comment, dans une ville en Angleterre, allaient se réunir comme ça 6 personnes. Ouais, je le répète parce que parfois, quand je l'ai lu, j'étais là.
Ils étaient 6.
6 personnes qui vont, en quelques mois... réussir à sortir ce truc-là. Et donc, c'est toute la naissance de Core Design, précédée par Gremlin Graphics.
Ouais, c'est ça.
À Derby, en Angleterre. Et donc, voilà, cette histoire qui commence avec un magasin de jeux vidéo.
En fait. C'est ça, tout à fait. Ouais, ça commence à Gremlin, donc à Sheffield, dans la ville de Sheffield. En fait, c'est deux personnes qui se disent, qui travaillent dans des magasins de jeux vidéo. Enfin, non, pas dans des magasins plutôt d'IFI.
High-tech.
Ils se disaient, on vend des ordinateurs, mais on ne vend pas de jeux. C'est quand même dommage. Et donc, en fait, ils ont quitté leur job et ils ont monté un tout petit magasin de jeux vidéo à Sheffield sur Carver Street. Donc là, j'y étais pour les besoins du livre. J'avais pris des photos, tout ça. C'est marrant, c'est un magasin de fringues aujourd'hui. Voilà, donc, pour vous dire. Et donc, ils se sont dit, tiens, c'est marrant parce qu'on a des clients qui font leurs propres jeux. Et ils se sont dit, il y a des bureaux au-dessus qui sont libres. Bon, on va prendre 2-3 employés, on va les payer, puis ils vont nous faire des jeux. Et donc, ils ont nommé ça Gremlin Graphics. Ça a grossi un petit peu, donc tout est relatif avec l'époque. Ouais. Et en fait, ils avaient chez Gremlin Graphics des employés qui venaient de Derby. Donc, ils ont travaillé comme ça pendant un certain laps de temps. Et puis, en fait, Ian Stewart, le patron de Gremlin Graphics, a dit, on va monter un studio à Derby qui va s'appeler Gremlin Derby. Et en fait, voilà, ça s'est très mal passé au niveau des ventes parce que tout, à l'époque, les jeux ordinateurs, c'était facilement copiable, ils récupéraient pas beaucoup d'argent ou des choses comme ça. Et donc, ils se sont retrouvés qu'ils ont dû fermer Gremlin Derby. Ouais. Et en fait, il y avait un employé de Gremlin Graphics qui est à Sheffield, qui s'appelle Jeremy Smith à l'époque, parce qu'il a changé de nom par la suite. Et il s'est dit, bon, bah, ce qu'il y a à Derby, en fait, on va le garder. Et on va garder les employés, on va garder les locaux, et on va faire quelque chose d'autre. Et c'est devenu Core Design, en fait.
Et donc, en fait, Core Design, je crois qu'ils se lancent sur Rick Dangerous.
Oui, alors sur Rick Dangerous, ça, c'est leur premier jeu qu'ils créent eux-mêmes. Et sinon, ils font des adaptations pour Sega.
Ouais. Voilà, et Rick Dangerous, déjà Rick Dangerous, cette inspiration Indiana Jones.
On est en plein dedans. On est en plein dedans. Moi, j'ai rencontré Simon Phipps, donc le créateur de Rick Dangerous. Et c'est ce qu'il m'a dit, en fait. Il m'a dit, on a fait une liste de tout ce qui marchait. Et on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait être le plus drôle à jouer. Et en fait, ils se sont dit, bon, on va faire Indiana Jones sans les droits. Quoi. Donc, c'est Indiana Jones, donc ça s'appelle Rick Dangerous. Quoi.
Alors, ce qui est assez marrant dans ton livre, c'est que tu vas jusqu'à détailler les processus de recrutement. Comment est-ce qu'un tel rejoint la société parce que c'est le cousin d'un tel, c'est un ami d'enfance, il envoie une démo, il envoie un truc, il envoie un dessin. Et c'est comme ça que, à cet endroit-là, se retrouvent en 95 à peu près.
Un petit peu avant. En fait, ils ont déménagé parce que Core Design, ça commençait à bien fonctionner, mais ça n'a jamais été une grosse société avant Tomb Raider. Ouais. C'était modeste, on va dire. C'était une quarantaine de personnes à peu près, de développeurs, même en comptant standardistes, secrétaires, tout ça, ils étaient à peine 40. Et ils ont dû déménager dans deux bureaux différents. Donc il y en avait un au 55 Ashbourne Road et un autre au 69, et celui qui est le plus connu, c'est le 55, puisqu'il ressemblait à un manoir de l'extérieur. D'ailleurs, il y avait une légende urbaine avec Tomb Raider bien plus tard, mais qui n'était pas vraie, mais ça ressemblait à un manoir. Et en fait, c'était des développeurs qui, voilà, ils étaient dans une espèce de maison, c'était pas du tout fait pour le développement de jeux vidéo, parce qu'ils s'entassaient tous, et c'est dans ce bâtiment là qu'a été créé Tomb Raider.
Non, alors, pour revenir à la création même et à l'équipe, moi, en lisant au tout début, j'étais très surpris, en fait, de lire qu'il y avait deux femmes, en fait, qui ont apparemment eu un rôle assez important dans la construction du personnage de Lara Croft. Il s'agit de Heather Gibson et de Vicky Arnold.
Oui.
Tu veux me dire qui sont ces personnes?
Heather, avant d'arriver chez Core Design, c'est une ancienne employée de Rare Software. Donc, j'ai pas mal discuté avec elle. Et en fait, il y a eu une micro-crise chez Rare. Et en fait, il y a eu des employés qui ont été virés, tout simplement.
Rare, sur un CV à l'époque...
Ça valait pas énorme, en fait. C'était une société comme une autre, quoi. Je veux dire, à l'époque, en Angleterre, il y avait énormément de studios de jeux vidéo.
Oui, mais tu le dis dans ton livre que les gens de Core Design, quand même...
Ah, c'est Jeremy Smith qui, lui, appréciait, en fait, Rare. Ouais. Il se disait, Core, il faut qu'on fasse Rare Software.
Voilà, c'est ça.
Mais ça a été une chance pour eux, parce qu'elle venait de Rare. Donc, on a parlé énormément de choses chez Rare qui sont pas dans le livre, malheureusement. Mais elle m'a parlé de plein de jeux annulés chez Rare Software. Elle a travaillé sur des trucs complètement fous, genre mon journal intime sur NES, quoi. Enfin, des trucs qui sont jamais sorti, mais voilà, quoi. Et elle s'est retrouvée chez Core Design, et c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueuse en termes de dessin, de graphisme. Donc Heather s'est retrouvée un peu catapultée comme ça. Elle a fait un jeu avant, je crois, chez Core Design. Elle a bossé sur un seul jeu. Et ensuite, elle a vu un espèce de truc qui allait ressembler à Tomb Raider, mais c'était pas encore ça. C'était un espèce de jeu Indiana Jones en 2,5D. C'était une démo de Toby Gard, en fait. Donc il avait déjà depuis très longtemps cette idée-là en tête. Et elle s'est dit, bon, bah oui, j'y vais, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà. Mais elle me l'a expliqué de façon très simple, quoi. Elle m'a dit, Tomb Raider, à l'époque, en fait, c'était comme tous les jeux chez Core. C'est on travaille 2-3 mois sur un prototype, et puis si c'était bon, on continuait. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit, faut pas s'attendre à beaucoup de documents de game design, beaucoup de choses comme ça. Parce qu'en fait, il y en avait très peu, quoi. Tout a été fait un peu de manière à l'instinct, quoi.
Artisanal.
Ouais. Très artisanal. Ouais,
c'est ça. Et donc Vicky Arnold,
du coup, c'est la scénariste de Tomb Raider. Mmh. Et c'est elle aussi qui a été à l'origine du changement de nom de Lara Croft en Lara Croft. Voilà. C'est pour une petite. Enfin, il y a deux raisons qui sont assez simples. C'est que quand il a fallu doubler les dialogues, en fait, Croft, ça marchait pas en anglais.
Ouais.
Ça faisait Lara Croft, ça marchait pas très bien. Donc, du coup, ils ont changé en Croft. Alors, il n'y a pas d'explication rationnelle. Moi, j'en ai parlé avec eux. Parce que juste à côté du bâtiment de Core Design, il y a une maison qui s'appelle The Croft House. Et tout le monde m'a dit, je suis sûr qu'elle est sortie du bureau, elle a vu Croft et elle a pris Croft et elle l'a marqué. On saura pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça me paraît très plausible, en fait, que ça soit ça. Et après, elle a été voir les développeurs avec des noms, et puis ils ont tous dit Croft, et puis voilà, elle est devenue Lara Croft.
En tout cas, à l'époque, c'était assez... Bon, aujourd'hui, maintenant, ça paraît quasiment naturel d'avoir une femme comme héroïne,
oui.
Mais à l'époque, c'était vraiment une véritable nouveauté.
Oui, tout à fait.
Enfin, ouais. À part, c'est Samus.
Ouais, voilà, il y a quelques personnages, mais c'est, enfin, dans Metroid, elle apparaissait avec une cuirasse, Samus. Et il y avait des personnages féminins, mais c'était très peu, comme Blaze de Street of Rage, par exemple. Mais c'est pas le personnage principal. Elle fait partie des trois qui sont dans le jeu, quoi. Donc voilà, oui, c'était nouveau.
Ce que tu expliques d'ailleurs sur ce point-là, c'est que il y a eu quand même pas mal d'occasions pour que la décision de faire un personnage féminin soit remise en cause. C'est-à-dire que le fait que Tomb Raider sorte à la fin avec une héroïne qu'on connaît tous aujourd'hui qui s'appelle Lara Croft, ça tient presque du miracle, parce que le nombre d'intervenants dans tout le courant, dans tout le processus qui finalement ont voulu remettre en cause le fait que ce soit une héroïne.
Jeremy Smith le premier, hein, le patron de Core Design. Hein. Évidemment, en fait, il n'y avait pas d'études de marché à l'époque, mais on se disait, les jeux vidéo, c'est pour les garçons. Qui comme garçon, aimerait jouer une fille? Enfin, ça paraissait... Ouais. Aujourd'hui, ça paraît débile, ça paraît stupide. Mais à l'époque, non, ça ne l'était absolument pas, parce que c'était vrai. C'était un marché qui était principalement... C'était les garçons qui étaient visés. Donc, du coup, il y avait peut-être un... côté girly, un truc un peu qui faisait un peu peur, quoi, et se dire on va droit dans le mur parce qu'on met une fille, quoi. Mais finalement, c'était vraiment une excellente idée.
Et alors c'est toujours le problème, c'est qu'il y a tellement de choses. Alors on peut que vous conseiller, hein, de le lire, parce que on se mélange, parce que là on a déjà parlé de Toby Gard, alors qu'on n'a pas parlé, on l'a même pas introduit. Donc Toby Gard, le créateur, finalement le créateur de Lara Croft.
Alors officiellement, oui, c'est lui. Après, effectivement, en interne, moi, j'ai pu discuter avec beaucoup de monde et il y a des choses qui sont remises en question sur sa paternité réelle, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, autant c'est bien lui qui a dessiné le personnage, c'est bien lui qui a donné un aspect comme ça, l'aspect qu'on connaît tous, mais que l'idée, la graine de départ, ne vienne pas forcément de lui, en fait. C'est plutôt de Guy Miller, en fait, qui lui aussi venait de chez Rare et qui est le co-créateur de Battletoads. Et ce qu'il a appris chez Rare, c'est une chose essentielle, c'est tu vends un jeu à partir du personnage. Voilà. Mmh. Et quand il est arrivé chez Core Design, il a été mis en avant, enfin il est devenu directeur artistique du studio, et dès son arrivée, on le voit dans les jeux Core Design, il y a eu un changement radical, un virage à 180 degrés. Il y a eu Tomb Raider, mais il y avait eu Blame Machine Head et Shield Shock, qui étaient les trois jeux, en fait... où Guy Miller a dit oui, il vaut mieux aller dans cette direction-là. Et on sait qu'il y a eu un personnage masculin au départ de Tomb Raider, mais que c'était trop proche d'Indiana Jones, en fait, et il y a de fortes chances que Guy Miller soit passé par là. Alors moi, je dis il y a de fortes chances, je ne le confirme pas, c'est parce qu'en fait, il y a des employés qui m'ont dit oui, c'est ça, il y en a d'autres qui m'ont dit non, c'est pas tout à fait ça, il faudrait peut-être mieux s'en tenir à la version qu'on connaît tous, et qu'il aurait dit tout simplement à Toby Gard, voilà, fais une femme.
Oui.
Voilà.
Mais de fait, c'est quand même Toby Gard qui est...
Par contre, c'est lui.
Ça a été un peu l'inspirateur. Oui. C'est lui qui avait fait le premier script, qui a été retravaillé énormément retravaillé.
Ah bah, il n'y a même presque plus rien.
Il n'y avait presque plus rien par Vicky Arnold. Ouais. C'était... Il gardait quand même une...
D'ailleurs, j'ai une anecdote quand j'étais à Paris mercredi avec les créateurs de Tomb Raider. Et justement, Gavin Rumeri m'en parlait. Il m'a dit, je me rappelle de Vicky Arnold prendre le script de Toby Gard et faire... On recommence. Parce que là, c'est... Il m'a dit... Je me souviens de ça.
Et alors, j'étais assez fasciné de découvrir qu'il y a aussi un comics qui a été qui a permis, de convaincre que.
Oui, tout à fait. C'est Simon Phipps, c'est le créateur de Rick Dangerous. Parce qu'il y avait cette légende où on disait qu'il s'était inspiré de. J'ai plus le nom. C'est. Le nom du comics.
Celui que tu cites dans le livre.
Oui. Tank Girls, pardon. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. mais voilà, oui. Et c'est, je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'il y ait cette espèce de légende où que Tank Girl aurait influencé Tomb Raider. Et j'en ai parlé à Simon Phipps. Je lui ai dit, est-ce que toi, tu as participé un peu à Tomb Raider? Il m'a dit, une des rares choses que j'ai fait sur Tomb Raider, c'est d'avoir apporté une pile à Toby Gard de Tank Girl et lui dire, tiens, prends ça, inspire ça de toi. Enfin, prends ça et fais-le. Et passer
d'un personnage féminin, on va dire prétexte, c'est-à-dire un personnage féminin où l'aspect féminin arrive en argument, voilà. On va y revenir après, quelque chose qui est très important dans la deuxième partie de l'histoire pratiquement, mais passer à un personnage féminin fort, un personnage féminin qui
a une consistance,
qui a une consistance et puis une volonté
Toby Gard l'a défini comme une psychopathe armée. Donc on est quand même loin de ce que Eidos a plus tard vendu, tout ça. Mais oui, lui, il la considère comme ça, quoi. Voilà.
Et donc en 96, si je ne m'abuse, en 96, après tu les décris, toutes les péripéties de développement. Même, en fait, ce qui est fort avec ton livre, c'est que même toutes les péripéties concernant le développement du moteur de jeu deviennent intéressantes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que dans une équipe de 6 personnes, eh ben, t'as un codeur, t'as deux level designers qui se servent du moteur du codeur qui a réussi à faire un truc avec des blocs qui s'empilent et donc qui a réussi finalement à faire le moteur idéal pour faire de la construction de niveau en 3D, ce qui est, à l'époque,
là,
on partait de rien.
Derrière, sur les écrans, on peut le voir. Si vous regardez, c'est cubique. Tout est cubique. Ouais. Et c'est Minecraft avant l'heure, en fait. C'est ça, un peu. Dans l'idée, c'est ça.
Mais oui,
c'est Minecraft avant l'heure. On met des cubes, on les empile et hop.
Et parce qu'il
fait...
fallait créer des environnements 3D. C'est quand même pas. Voilà. C'était quand même très, très loin d'être évident.
Tout à fait.
Et donc, ça, tu décris tout ça. Mais en 96, sort Tomb Raider. On va regarder quand même un extrait, peut-être un extrait parmi les plus marquants. La vallée perdue, c'est le premier niveau ?
Non, c'est le troisième, il me semble.
Le troisième,
de mémoire.
Ça remonte. Hein, mais c'est un niveau emblématique de ce premier Tomb Raider. Ouais. Hein, on a appris dans les deux premiers, on a déjà on a été confronté à quelques loups. Hein,
oui. Des chauves-souris, des loups.
Des chauves-souris, des loups. Bon, ça reste. Mais bon, quand même, en 3D et tout ça, on apprend à contrôler le personnage. Et puis là, on est dans des grottes, on ne sait pas trop où on va. On arrive, et moi, ça reste ancré dans ma mémoire passage.
Moi pareil.
La première fois, quoi. Et on arrive et on a un truc qui débouche comme ça sur un espace verdoyant dans des grottes. Et puis, on commence déjà à être un petit peu confronté au Vélociraptor.
Hein, on se dit, il se passe quelque chose, il y a des
choses un peu zarbes. Et là, de fait, c'était le premier, parce que c'était la première fois en 3D, mais le premier effet d'échelle. En 3D.
Et il y a un T-Rex qui débarque. Ouais. Et avec cette musique de Nathan McCree qui est complètement folle et qui fait paniquer parce qu'on s'y attend pas. Et en plus de ça, ce qui est très marrant dans cette scène, c'est qu'il y a des restrictions techniques à cause de la PlayStation. Donc en fait, tout est très brumeux mais noir.
Ouais.
Et ce T-Rex arrive et on a l'impression qu'il sort d'une brume noire comme ça. Et on voit quelque chose qui apparaît. Et d'un coup, on se dit waouh, c'est un T-Rex. Et moi, j'ai un souvenir de ça. Je suis encore tétanisé par.
Il y avait un effet de sidération qui était complètement dingue de se retrouver face à ça et puis on panique hein. On n'est pas bien hein. Aujourd'hui c'est marrant parce qu'il y a toujours ce rapport comme ça à l'histoire où quand on revoit les images, quand on revoit le T-Rex aujourd'hui par rapport aux jeux vidéo d'aujourd'hui, c'est à l'époque
et en plus de ça c'est que c'était pas prévu.
Alors tu racontes l'histoire de ce T-Rex.
Parce qu'en fait, Toby Gard s'entraînait à faire de la modélisation et il s'est entraîné juste à faire un T-Rex. Voilà, et ça y est passé par la tête. Et c'est Gavin Lumary, justement, le créateur de l'éditeur de niveau de Tomb Raider, qui lui a dit, mais le T-Rex, il sert à quoi ? Ah non, on le met pas, c'est pas prévu dans le jeu. Voilà, ça va sortir, ça va être un peu bizarre de mettre un T-Rex. Et tout le monde l'a poussé à Toby Gard à dire, si, il faut mettre un T-Rex ici. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, ça a créé un moment iconique sur.
Du jeu vidéo. Enfin, la vallée perdue. Du premier Tomb Raider, c'est un moment du jeu vidéo. Alors, tu décris, c'est un moment aussi important, donc la sortie de ce premier Tomb Raider, parce que pendant à peu près tout le développement, l'éditeur pressenti pour éditer Tomb Raider, c'est US Gold.
D'ailleurs, Core Design appartenait à US Gold, ils l'avaient acheté, puis US Gold, ça allait très mal. Donc du coup, c'est une société qui s'appelle Eidos qui s'est présentée à un an et demi du développement de Tomb Raider. Donc on était quasiment à la fin, à la fin du développement, quoi. Et ça a tout changé. Le fait qu'Eidos arrive, ça a changé la donne. Ouais.
Et à quel niveau ?
Comme me disait l'équipe, ils me disaient qu'en interne, ils savaient qu'ils avaient un hit.
Oui.
Mais c'était pas prétentieux de leur part. Ils disaient juste, on a fait un bon boulot, on a fait un bon job, on a fait quelque chose. Et Eidos est arrivé avec l'idée de devoir mettre le paquet, en fait, au niveau au niveau marketing. Et la première idée qu'ils ont eue, c'était de virer Lara Croft. pour remettre un personnage voilà, masculin alors que tout le monde s'est battu hein, ouais. Tout le monde s'est battu pour mettre un personnage féminin et eux au final ils ont fait ok on laisse tomber et voilà. Ils ont repris la com en marche et ils ont carrément viré Toby Gard de la com. Enfin, lui, il n'était pas prévu là à la base, ouais. Mais c'est plutôt, il avait une idée de comment vendre le jeu et ils lui ont dit non, mais toi, t'es gentil, voilà, t'es juste un développeur. Voilà, nous, on va s'occuper, on va le faire et voilà. Et ça a donné une com absolument étrange quand on la regarde 20 ans après.
Ah oui, non, mais c'est ça. Alors, nous sommes donc le rachat par Eidos et Eidos donc, a demandé en fait un code pour que ouais. On puisse voir Lara Croft dénudée.
Enfin, c'est quand même invraisemblable. C'est voilà, moi j'ai posé la question quand même, genre est-ce que c'est vrai qu'ils ont vraiment demandé? Oui, ils ont demandé.
Ça a été refusé?
Ça a été refusé par l'équipe du développement qui ont dit non, mais ça va pas, non, on va jamais faire ça quoi.
Et donc, autour de la sortie de la Croft, effectivement, il y a un certain sexisme quoi,
dans les publicités, c'était atroce. Catastrophique, même les discours des publicités
la publicité c'est laquelle? J'ai noté, c'était... Lara sera à tes côtés, mais prouve-lui que tu es un homme.
Quoi. Ouais, c'est fou, hein, quand on regarde ça 20 ans après. Hein.
C'est
on
incroyable.
Se dit, c'est dingue. Et Toby Gard et l'équipe de Tomb Raider n'ont clairement pas apprécié tout ce genre de délire autour du personnage. Parce qu'ils ont sexualisé un personnage qui ne l'est pas dans le jeu. C'est ça qui est fou, en fait. Dans le jeu, elle n'a aucune pose sexy. Si on peut appeler ça des seins, elle a des triangles à la place des seins. Je veux dire, bon, voilà. Et eux, ils ont fait un jeu, ils n'ont pas fait un personnage sexy. Ouais. Et eux, Eidos, ils ont pris ça comme ça, ils ont vendu ça par l'intermédiaire de Lara Croft, quoi. Donc, ça a nuit énormément à l'ambiance du jeu, mais ça a aussi fait le succès du personnage, parce que tout le monde a identifié Lara Croft comme une bimbo qu'elle n'était pas. Donc,
Oui, parce qu'en plus, tu racontes que à l'E3 précédent, la sortie, c'est là où a commencé à y avoir une sorte de buzz comme ça autour de Tomb Raider. Eidos avait balancé trois bimbos déguisés et siliconés sur le stand. Bon, ce qui a été pendant très très longtemps une habitude à l'E3 et pas que du côté d'Eidos, hein, par ailleurs.
Je sais plus le nom, c'est des babes, je crois.
Oui, voilà.
des babes. Ouais,
et il y avait comme ça toute une com autour du côté sexy de ce nouveau personnage de jeu vidéo. Et là, d'une part, ça va effectivement faire peut-être contribuer au succès, si aujourd'hui, des années après, on se dit est-ce que Tomb Raider avait besoin de ça pour cartonner, on n'est pas sûr.
On n'aura jamais la réponse, mais c'était fou quoi. Moi, je sais que j'avais oublié la com, si vous voulez. Ouais. Quand j'ai écrit le bouquin, j'avais oublié, puis je dis tiens, on va regarder quand même ce qu'ils faisaient à l'époque, et j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? Et même dans les pubs anglaises, mais c'était ahurissant, il y avait juste une image de Lara Croft, il n'y avait même pas d'image du jeu, et c'était marqué, tu vois comment ça fait mal quand on tape entre les jambes, mauviette. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je comprends mieux Toby Gard, effectivement, qu'il n'ait pas apprécié qu'on fasse ça avec son personnage, quoi.
Parce que c'est un carton. C'est un carton, ça se vend par wagon entier. Les critiques sont unanimes. Là, pour le coup, ça fait plaisir à l'équipe de Core Design. Ils sont 6, on répète. Enfin, ils sont 6 plus la scénariste, hein, je crois.
Il y a des personnes un petit peu intervenantes. C'est-à-dire, ils sont 6. Le noyau dur, ils sont 6. Il y a un musicien qui est Nathan Macri, une scénariste et deux personnes de Core qui sont intervenues pour faire les cinématiques. Et deux autres qui sont. Alors, c'est vraiment rien du tout. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, on a juste besoin de ça aujourd'hui, est-ce que tu peux nous faire ça rapidement? Et hop, ils programmaient ça et puis c'était fait quoi. Mais le noyau dur de l'équipe.
Je sais pas si vous vous rendez compte, regardez les crédits de fin d'un jeu Ubisoft aujourd'hui par exemple. Enfin, et c'est pas une critique envers Ubisoft, hein, mais c'est 150, 200 et puis avec les intervenants extérieurs, c'est une liste 1 qui se finit jamais quoi. Voilà. Et là, ils sortent, moi j'en reviens toujours pas. C'est un truc de fou. Et donc ils sont enchantés par l'accueil de fait. Par l'accueil critique.
L'accueil critique, oui. Ouais. Mais l'équipe déjà se rebelle un petit peu contre Eidos.
Ouais. Oui, bien sûr.
Parce que il y a eu beaucoup de choses. Comme je disais, j'en ai parlé avec Gavin il me racontait. Enfin, nous on l'a dit dans le livre parce que ça me paraissait important de le dire des relations avec les journalistes et les éditeurs à l'époque qui sont plus heureusement pour nous les mêmes aujourd'hui. Mais à l'époque, il y a des journalistes qui ont été envoyés en Égypte.
Oui, tu racontes le voyage de presse.
Mais
en
pour
Égypte.
Rien. En fait, il y a pas de jeu. Quoi. les mecs sont partis 4 jours sur le Nil. Enfin voilà, en dromadaire ou chameau. goût, je ne sais pas quoi. Mais voilà, et j'ai vu les photos, c'est-à-dire dans un magazine américain, et voilà, il y a le mec, bah, voilà, on a fait un press tour, mais on n'a pas joué au jeu, quoi. Et à l'époque, ça passait. Ah, mais rien, ils mettent des photos, voilà, on est comme ça, c'est super, c'est complètement fou. Et je dis, j'ai demandé à Guillaume, t'étais au courant de ça? Et il m'a dit, mais oui. Il me dit, nous, on était là en train de finir le jeu, comme ça, et il disait, mais non, mais Eidos, payez-nous un voyage en Égypte. Et voilà, et non, non, ils étaient considérés.
Eux n'ont pas eu des sous pour aller voir les lieux.
Ah non, non, rien, rien du tout. Et lui, il nous a dit, mais c'était fou, quoi. Eidos, il nous considérait comme des gens. Ouais, mais toi, t'es juste le programmeur. Ouais. Les journalistes, c'est plus important que toi. Enfin, ça paraît barge. Quand on y pense à l'heure actuelle, ça paraît barge. Quoi. Ouais.
Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein.
C'était il y a 20 ans.
Il y a 20 ans.
Et là, on se dit, ouais, ça fait réfléchir des fois sur les relations entre certains journalistes et éditeurs. Ça fait quand même bizarre. Quoi. Mais on ne peut pas se dire que les notes du jeu ont été biaisées par ça, parce que le jeu était quand même brillant. Quoi.
Et puis, ce succès qui fait que, aussi, bah, Lara Croft, elle commence à sortir, enfin, le nom de Lara Croft commence à sortir du cadre lui-même des fans de jeux vidéo. Comment ça se passe, ça, c'est ça qui est intriguant, c'est comment elle devient une icône de la pop culture.
Ah, très rapidement, un mois après, en janvier 1997, je ne sais plus quelle maison de production, mais c'est celle de U2, du groupe U2, qui contacte Eidos et Core Design, et leur dit « nous, on veut Lara Croft dans les stades avec U2 ». En janvier 97. Ouais. Le jeu sort en novembre 96. Pour te dire, deux mois après,
ouais, c'était... Donc les pubs.
Et ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la presse people, ou la presse grand public, qui s'est accaparé le personnage. Et ça a commencé en Angleterre avec The Face, le magazine The Face qui était très connu. C'était un magazine pop. Voilà. Et du moment que ça a parti en Angleterre, ça a commencé à continuer.
Et en France. Juillet 97.
Libération.
Libération qui fait sa une. Voilà. On ne va pas commenter le côté un peu sexiste.
La couve était ce qu'elle était.
Hein. Oui, non, mais ceci dit, voilà, ça, non, c'était la première fois en France qu'il y avait une d'un média généraliste consacré aux jeux vidéo. C'était en juillet 97, entre Tomb Raider le premier et Tomb Raider 2. Et bah, d'ailleurs, ça nous fait une transition parce que malheureusement, on n'a pas deux heures, hein, mais on va. Parce que, non, mais c'est vrai. Franchement. Rarement un bouquin sur comme ça qui se concentre sur une saga m'a autant passionné. Il y a cette sortie de, parce que il y a Eidos, donc un des soucis avec Eidos, c'est cet aspect marketing très prononcé vis-à-vis de Tomb Raider. Il y a l'aspect économique. C'est que Tomb Raider est un succès. Il nous faut un Tomb Raider 2. Et s'il vous plaît, vous avez 10 mois.
C'est ça.
Ouais, même un peu moins. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont eu à peine le temps de se remettre du premier Tomb Raider.
Sachant que le corollaire aussi, je t'interromps un petit peu, je suis désolé, mais je te laisse la parole ensuite, mais le corollaire du fait de n'être que 6 personnes, c'est le fait qu'ils ont perdu leur vie pendant le développement du premier Tomb Raider. Ces gens n'avaient pas de vie.
Voilà.
Et Tomb Raider sort, c'est un succès. Et ben vous êtes gentil, vous allez enchaîner.
Oui, ils ont eu à peine, je crois, quelques semaines pour s'en remettre. Ouais. Parce qu'ils ont dû très rapidement. En fait, ce qui s'est passé chez Core, c'est qu'on leur a dit Tomb Raider 2, Noël prochain. Et Toby Gard a fait ouais, non, parce que moi, je veux faire autre chose et je veux pas refaire un Tomb Raider. Enfin, en tout cas, je veux pas revivre ce que j'ai vécu sur la sortie de Tomb Raider et tout ça. Donc, ils sont mis à trois chez Core. Donc, il y avait Gavin Rumeri, Paul Douglas, qui est le programmeur principal de Tomb Raider, et Toby Gard a travaillé sur quelque chose. Et en fait, le démarrage de Tomb Raider 2 se passe très mal parce qu'ils n'ont pas une tête pensante. C'est-à-dire l'équipe, ceux qui restent du premier Tomb Raider, ils ont du mal à prendre le dessus. Et Gavin Rumeri était, lui, un leader né, quoi. C'est-à-dire c'est un programmeur de génie et c'est aussi un leader incroyable d'hommes et de femmes. Et donc lui, il dit à Toby Gard et Paul Douglas, moi je me retire de votre projet et je vais me mettre sur Tomb Raider 2 histoire qu'on puisse le terminer, enfin en tout cas qu'on puisse déjà même le commencer et de se dire un Noël prochain il y a un Tomb Raider 2 et Toby Gard et Paul Douglas sont partis peu de temps après.
Voilà, alors il y a ce passage-là qui est d'ailleurs resté dans l'histoire du jeu vidéo, un passage extrêmement commenté, c'est-à-dire que Toby Gard, qui est considéré donc comme le père spirituel de Lara Croft, quitte le navire après le succès, c'est-à-dire pas en cours de développement, il y a déjà un succès
cours de succès, on peut dire.
Voilà, en cours de succès du premier Tomb Raider, Toby Gard claque la porte. Alors il y a énormément, ça a été énormément commenté.
Beaucoup trop, parce que c'était beaucoup plus simple que ça en fait. Ouais. C'était, il est parti tout simplement. Et il y a beaucoup de personnes, moi je sais que j'ai rencontré beaucoup de monde sur Tomb Raider et tout le monde me disait, mais on comprend même pas pourquoi il n'est pas resté, rien que pour l'argent.
Oui.
Mais lui c'est un artiste, c'est un créatif, donc lui l'argent, voilà, il s'en va quoi. Si ça lui plaît pas, il part quoi. Et voilà, c'est ce qu'il faut garder de Toby Gard, c'est que c'est un créatif et l'argent, c'est après.
D'ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui a un rapport assez, assez fusionnel avec, avec ses créations, et c'est... Oui. Et on le ressent dans ton livre, c'est le personnage qui manque. Enfin, c'est le personnage que tu dessines par défaut, entre guillemets. C'est c'est-à-dire, c'est tout ce qui concerne Toby Gard, c'est très précis, parce que tu as rencontré tous ceux qui l'ont fréquenté à cette époque, mais tu n'as pas, tu n'as pas réussi à, à rencontrer Toby Gard.
Non, je n'ai pas réussi à l'avoir, on l'a contacté. Et voilà, je crois qu'il ne veut absolument plus parler de Tomb Raider aujourd'hui. Je crois que... Voilà, c'est derrière lui. Maintenant, il, lui, il continue sa carrière, il continue à faire des jeux. Il en a sorti un récemment. C'est Herzlai, je crois, sur PlayStation VR. C'est, et voilà, je crois qu'il continue tout simplement, mais il ne veut plus aborder ce sujet-là. Parce que je crois que quelque part, peut-être qu'il a un peu peur qu'on le. Et c'est déjà le cas qu'on dise ah oui, c'est le gars de Tomb Raider. Alors qu'en fait, il a fait autre chose, mais voilà, et il, aujourd'hui, il ne veut plus en parler. Mais ce qui est intéressant dans le livre, moi, ce que j'ai aimé faire, c'est ce côté un peu fantôme de Toby Gard. C'est-à-dire avec la vision de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a une vision de lui très particulière. Il y a des choses que je n'ai pas racontées non plus. Je me suis un petit peu censuré parce que forcément, il y a des choses qui n'étaient pas évidentes à raconter sur, sur Toby Gard. Mais voilà, quoi. Et c'est, un, c'est vrai que c'est un personnage, ce Toby Gard.
Qu'est-ce qui fait qu'il va... Alors, peut-être qu'on va faire un petit saut dans le temps, juste pour, juste pour le, donc Crystal Dynamics, peut-être donc studio qui va reprendre le Tomb Raider Precore. À ce moment-là, ils font, enfin, Crystal Dynamics demande en fait à Toby de revenir, c'est ça. Enfin, comment ça se passe ?
On ne sait pas trop comment ça s'est passé, même s'il y a une chose qui est évidente, c'est-à-dire que Toby Gard il a développé un jeu pendant 7 ans qui s'appelle Galéon et qui a été un échec commercial cuisant. Et en fait, la, pendant le temps de développement de Galéon, le studio, il me semble que c'était Interplay, qui travaillait avec Toby Gard, a été racheté par une société qui s'appelait SCI. Voilà, qui n'est pas très connu. Et en fait, ce SCI a racheté Eidos par la suite. Mais ils ont gardé l'appellation Eidos, qui était beaucoup plus connue du grand public. Et c'est là qu'à mon avis, ça a dû énormément faciliter les choses du passage de Toby Gard chez Crystal Dynamics, en fait. Et je pense qu'ils voulaient envoyer un signal aussi aux fans. Dire, voilà, vous avez vu, on l'a récupéré. Voilà, il est avec nous. Et,
parce qu'à l'époque, ben, on en parlera peut-être si on arrive, si on arrive à avancer un petit peu. Mais on en parlera parce qu'à l'époque du passage à Crystal Dynamics, il fallait se remettre de l'Ange des Ténèbres sur PlayStation 2, qui a été quand même un gros problème dont tu parles, hein, parce que tu parles vraiment en connaissance de toute la période core design, comme ça, de l'histoire de Tomb Raider. Juste donc pour revenir sur Tomb Raider 2, Toby Gard est donc parti. Il reste quand même, et ça tu l'évoques, le fait de, que c'est un artiste et qu'Eidos a complètement corrompu la vision qu'il avait de son personnage.
Il y a ça, et puis en fait, il s'est aperçu très rapidement qu'il s'était inspiré de sa sœur sans le faire exprès. Mais voilà, moi je le comprends en fait. Quand il explique ça dans une interview, je comprends ce qu'il a voulu faire. En fait, je pense que les artistes, ils ont besoin de chercher l'inspiration quelque part. Et sans faire exprès, effectivement, j'ai vu une photo de sa sœur et je me suis dit, ah oui, il y a un truc.
C'est vrai que Lara Croft ressemble vraiment à sa sœur.
Alors, pas physiquement, mais en tout cas, au niveau du visage, effectivement, il y a quelque chose dans les yeux, il y a quelque chose dans la forme, il y a un truc, évidemment. Mais je pense qu'il ne l'a pas fait, il l'a fait inconsciemment. Mais voilà, et. Évidemment que ça fait bizarre, évidemment, de se dire, de voir sa sœur en maillot de bain dans un magasin, dans un magazine, enfin, voilà, c'est bizarre, quoi. Lui, il voyait pas Lara Croft comme ça, il voyait pas ce personnage-là porter des robes Gucci ou des choses comme ça.
Oui, voilà, c'était pour lui, c'était de l'aventurière, autonome, indépendante, forte.
Et belle aussi, c'était le piège, en fait. Ouais. C'est ça, le truc, c'est qu'elle était belle, donc c'était le piège, parce que tout le monde s'est dit, ah, elle est belle, donc voilà. Mais en fait, c'est quelqu'un qui pouvait très rapidement te mettre un flingue sur la tempe et dire, tu me touches pas, quoi. Et c'était ça qui était, c'était cette relation-là qui était forte, je pense, avec Lara Croft,
Et donc, pour Tomb Raider 2, ils partent en développement. C'est ce que tu expliques, c'est qu'ils ont un peu de mal avec le scénario, forcément. Hein, en 9 mois, je crois que tu expliques qu'il y a 15 ou à peine 20 lignes de dialogue pour
Lara Croft,
pour Lara Croft dans l'intégralité du jeu, que finalement, les personnages, même les ennemis, ne sont pas introduits. On se retrouve avec, avec une sorte de fil rouge de cette dague de Xian à aller chercher, mais... Ouais. Ça reste très vague de pourquoi on le fait, pourquoi l'ennemi veut le faire, cette espèce de dragon à la fin. Ouais. Enfin, ça reste très, très étrange.
Moi, comment Heather Gibson, à propos de Tomb Raider 2, m'a dit, tu sais, à l'époque, ce qu'on voulait faire, c'était des bons jeux. Ouais. Et un bon scénario, c'était un plus. Ouais. Voilà. Si on n'avait pas un bon scénario, bon, c'est pas grave, parce qu'on avait quand même fait un bon jeu. Ça excusait, en fait. Aujourd'hui, on sort un jeu comme Tomb Raider. Enfin, un jeu avec le scénario de Tomb Raider 2, on va droit dans le mur, quoi. C'est, il y a rien, il y a vraiment, vraiment rien. Moi, je sais que en parlant avec Pixeno, je me suis dit, mais qu'est-ce que je marque pour le scénario de Tomb Raider 2? C'est quoi le lien entre ce niveau-là et ce niveau-là? Il y en a pas. Enfin, c'est assez catastrophique, quoi. Et c'est marrant parce que j'allais voir les fan sites qui racontaient un peu les histoires des différents Tomb Raider et notamment Tomb Raider 2. Il y a presque une version différente par site, par fan. C'est impressionnant.
À l'époque, ça ne marquait pas en plus. Enfin, à l'époque, moi, j'avais joué, je me rappelle pas du scénario, mais je me rappelle pas non plus de l'absence de scénario. Enfin,
Voilà. Bah, je pense
que mon imagination a du tout comblé.
Voilà, mais on jouait pour jouer aussi, peut-être.
Ouais. Et, et Tomb Raider 2 sort effectivement à la période pour Noël 97. On va voir un extrait. Et donc, quand même, ils ont réussi en quelques mois, même s'il n'y avait pas de scénario, même si, à faire quand même, moi, un jeu marquant, ne serait-ce que parce que c'était la suite de Tomb Raider, et que là-dessus, même si on en veut un petit peu à Eidos de les avoir poussés au cul, on était très, très contents d'avoir un Tomb Raider 2 en 97.
Ça a confirmé, on va dire. Voilà, le premier Tomb Raider, on peut toujours se dire, ouais, c'était peut-être un coup de chance, on ne sait pas. Et non, le 2, il est arrivé, paf, il a dit, ça y est, voilà, ça
et
c'est fait.
Et avec, là, pour le coup, alors, il y avait le T-Rex dans le premier.
Oui.
Et... Sincèrement, mais tu t'en parles dans parles dans le livre encore une fois, et c'est pour ça, je crois que c'est pour ça que j'ai raté la deuxième station de métro. J'étais à ce passage-là très exactement. C'est qu'il y a Venise.
Oui.
Donc déjà Venise, quoi. Oui. On est quelques années avant Assassin's Creed 2. Hein, ouais. C'était et il y a cette cascade folle en bateau.
Ah oui.
Le bateau qui prend le tremplin et qui pète la baie vitrée du pont. Mais ça, mais moi j'étais là, j'étais oh. Pour moi, cette cascade-là, c'est le T-Rex de... Et c'est tellement novateur, c'est tellement précurseur de ce que va être le jeu vidéo après, sur cette espèce... Même, en fait, pour moi, ce passage de Tomb Raider où on prend le tremplin en bateau et on passe par une espèce de cinématique, un truc comme...
Ouais, baie vitrée.
Voilà, baie vitrée. Pour moi, c'est Uncharted.
Et c'est Uncharted presque 20 ans avant, quoi.
C'est Uncharted presque 20 ans avant, avec, avec ces espèces de cutscenes environnementales qui sont pensées. Moi, c'était... Et quand tu le dis dans le bouquin, c'est presque un hasard, quoi. Enfin, c'est genre... on a de l'eau. On serait con de ne pas avoir de bateau, quand même. Tiens, j'ai modélisé un bateau sur mon temps libre. C'est ce que tu racontes,
le mec. En 48 heures, Gavin Romery, il est arrivé, il a fait bateau. 48 heures après, il y avait un bateau qui fonctionne. C'est Heather qui a texturé le bateau.
Qui a texturé, et qui s'est dit, ah bah tiens, on va péter les vitres.
Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que l'illustration de Célia dans le livre, c'est le bateau qui passe. Parce qu'en fait, c'est la scène préférée de Heather. Elle m'a dit, voilà, moi, si tu me demandes mon passage préféré dans Tomb Raider 2, c'est celui-là. Et elle m'a dit, j'aurais tellement voulu en mettre plein, tout faire péter, mais ils n'avaient pas le temps.
Cette scène-là, c'est Uncharted.
Voilà. Il y avait aussi un petit truc qu'ils n'ont pas pu faire, que j'ai pas eu le temps de rajouter dans le livre, c'était au cours de discussion. Ils voulaient faire des bâtiments qui explosent, en fait, dans Venise. Voilà.
Ouais,
et qui s'écroulent, mais il y a eu un petit truc qui a survécu, c'est un bâton de dynamite. Mais vraiment, c'est le petit truc, je me rappelle plus trop dans Tomb Raider 2, on doit faire casser un mur ou un truc comme ça. Mais c'est tout ce qui a survécu de cette idée-là, mais oui, à la base, ils voulaient tout faire sauter, quoi. Et voilà.
Et alors, et parallèlement, il y a toujours le marketing d'Eidos qui continue de fonctionner à fond. Et là, donc, il demande en fait à une mannequin, donc c'est là où il commence à vouloir incarner physiquement, enfin dans la réalité, Lara Croft, un mannequin, donc Rona Mitra, qui prend, qui devient son
double réel, mais c'est pour moi, c'est un des plus grands ratés de la com d'Eidos. Alors, beaucoup de personnes disent « Ah oui, mais moi, je m'en souviens, c'était bien, ils avaient des égéries, Tomb Raider. » Là-dessus, je suis du même avis qu'Alain Huglacourt. J'ai pensé que c'était stupide, parce qu'elle était virtuelle. Et il fallait jouer énormément sur cet aspect virtuel. Et non, ils ont essayé de l'humaniser en mettant des mannequins. Puis ça ne servait pas à grand-chose. Enfin, à part faire parler et prendre des photos à l'E3. Voilà quoi. Et Rona Mitra, c'est celle qui a le plus marqué parce qu'elle est restée un petit moment, un peu plus d'une année, et elle a fait beaucoup de choses en tant que Lara Croft. Ouais. Donc elle a sorti un album de musique.
C'est ça, j'étais surpris. Il y a un album. Alors, je suis allé l'écouter, donc c'était ça.
C'était bien. Hein.
Donc c'était le Come Alive. Donc l'album Come Alive. Alors, je suis allé écouter effectivement les morceaux. Toi, tu parles de. Non, mais c'est marrant. Tu parles d'un échec commercial. Ouais. Entre techno et house très marqué, années 90, rien ne sauve cet album. Quoi.
Ah bah donc, oui, c'était catastrophique. C'était C'était quelqu'un de Rhythmix en plus, hein, qui est connu.
C'était Dave Stewart.
Dave Stewart, ouais, de Rhythmix, qui a bossé avec Rona Mitra. Je crois que l'enregistrement s'est passé sur un bateau. Enfin, le truc vraiment. Bon, on a Lara Croft, on va la faire chanter maintenant. Ouais. Vivement la comédie musicale, mais voilà, non, mais c'est fou.
On est allé loin quand même. Enfin,
ouais, ouais, ouais. Bah, en termes de marketing débile, ouais, il y en a eu un paquet.
Mais mm. par contre, un des points importants de ce Tomb Raider 2, c'est que ils arrivent à enfin modéliser la Lara Croft qu'ils voulaient dans le 1, en
ouais.
fait.
Ouais,
c'est,
ouais.
C'est quand même un point important, c'est-à-dire que Lara Croft a changé.
Oui.
Elle a sa queue de cheval. Ouais. Il y a des choses comme ça qui font évoluer le. Est-ce que c'est à ce moment-là où il y a la combinaison de touches où elle se relève en faisant l'équilibre ou céder le premier?
Il me semble que dès Tomb Raider 1, c'était possible. Me semble. Hein, ouais. J'ai un doute, mais oui. Bah en fait, ce qui s'est passé sur Tomb Raider 2, c'est qu'ils ont eu deux personnes pour modéliser l'ensemble. Des ennemis, dont un Français qui s'appelait Josh Charmé, et que dans le premier Tomb Raider, il n'y avait que Toby Gard. Voilà, Toby Gard avait fait Lara Croft, tous les ennemis, les ours, le T-Rex, tout était lui. Que là, ils étaient deux, donc du coup, c'était plus facile pour s'occuper que de Lara Croft. Et Gavin Rumeri a réglé le problème de la queue de cheval qui n'était pas présente dans le premier. Quoi. Il a changé de manière de coder. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le livre. Mais voilà, dans le premier Tomb Raider, elle avait une queue de cheval pendant un certain temps, mais en fait, elle avait sa propre physique. Enfin, ça, ouais. Et ça faisait ralentir le jeu. Que là, en fait, c'est juste des petites animations. Enfin voilà, sa queue de cheval est indépendante, donc elle fait un peu ce qu'elle veut quand on joue avec Lara. Quoi.
Et donc, quand même, énormément de choses qui arrivent dans son Tomb Raider 2, entre des véhicules, entre la phase sous-marine,
ouais.
l'exploration sous-marine, qui est aussi assez marquante. C'est assez dingue hein, quand on y pense qu'ils ont eu cette pression quand même de fou qui vient de Eidos, qui les oblige à sortir un jeu, et ils arrivent quand même à sortir, encore une fois, quelque chose de novateur.
Ben oui, puis je pense que... Déjà, il y avait pas beaucoup de, enfin, il y avait encore pas mal d'idées qu'ils n'avaient pas exploitées sur Tomb Raider 1. Puis il y a une chose aussi, c'est que Toby Gard n'était plus là. Donc Gavin Rumeri a récupéré, enfin, il était un peu le chef de projet, voilà. Et peut-être que lui a laissé plus de liberté à Heather, à Neil et aux autres qui ont travaillé sur Tomb Raider 2. Et ça a donné un jeu. Enfin, moi, je le trouve fantastique Tomb Raider 2. Pour moi, c'est une suite qui est
qui est digne
ouais. et qui a apporté énormément de choses. Dommage pour le scénario, mais tout le reste était quand même fantastique. Quoi.
Et alors, vu que, quand même, malheureusement, on ne va pas faire deux ou trois émissions sur le sujet, on pourrait, mais... Comment, pour aller vite, parce que je pense que c'est important, comment est-ce qu'on part de Tomb Raider 2 pour aboutir, plein d'années plus tard, à... la version PlayStation 2, L'Ange des Ténèbres, qui est encore aujourd'hui, qui suscite l'incompréhension totale de tout le monde.
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de Tomb Raider 2, les équipes sont là pour du coup claquer, hein, faut le dire, parce qu'ils sont vraiment très très fatigués après Tomb Raider 1 et après Tomb Raider 2, donc c'est presque 3 ans de travail accumulé où ils ont très peu dormi, hein, même Gavin me le reconfirmait, il me disait Tomb Raider 2, je dormais plus, quoi, le temps de finir le jeu. Et en fait, cette équipe part en vacances, Et Jeremy Heath Smith demande à d'autres employés de Core Design de faire une sorte de Tomb Raider 2.5 qui aurait été un CD additionnel revendu avec Tomb Raider 2. Et finalement, il se trouve que l'idée commercialement n'est pas viable. Et il y a une nouvelle équipe qui va se former, qui va faire Tomb Raider 3, sauf que l'équipe de Tomb Raider 1 et 2 n'était pas au courant. Et voilà, ils sont revenus de vacances et en fait, ils ont entendu dire qu'il y aurait un gros add-on, comme on les appelait à l'époque. Et en fait, ils ont vu des press-kits en revenant chez Core Design. Quoi. Press-kits de Tomb Raider 3. Ouais. Gavin Rumeri l'a appris comme ça, il était fou. Quoi. Parce qu'il avait dit à Jeremy Smith, il faut laisser Lara Croft un an sans jeu, le temps qu'on trouve des nouvelles idées, qu'on fasse un truc super bien. Et il est arrivé, Tomb Raider 3. Quoi.
Oh.
Voilà. Et Tomb Raider 3 est assez... Il y a déjà pas mal de petits problèmes avec Tomb Raider 3.
C'est le début, on est sur le début du déclin. Enfin, ouais, même, c'est le déclin qui commence.
On est sur une équipe qui pratiquement n'a jamais eu d'expérience sur un Tomb Raider, à part Richard Morton. Donc ce qui fait qu'ils vont faire des choses qui ne vont pas fonctionner, c'est-à-dire qu'ils veulent augmenter le niveau de difficulté, mais la jouabilité n'est pas retouché, donc en fait le joueur ne peut pas répondre à un tel niveau de difficulté, c'est-à-dire que quand il y a un piège, on est obligé de se prendre, on n'arrive pas, dès la première fois on est obligé de se prendre, c'est du die and retry un peu étrange, ils ont augmenté la difficulté, les niveaux sont immenses parce qu'ils ont modifié le code, ce qui fait qu'on se perd très souvent, le scénario est quand même lui aussi pas forcément exceptionnel, les musiques de Nathan McCree sont magnifiques par contre, et voilà, et ça va commencer à être le début de la fin. Ensuite, bon, du coup, on va peut-être du coup accélérer un petit peu. Il y a eu la révélation finale où là, il y a eu une vraie remise en question de l'équipe de Tomb Raider 3, qui pour moi ont fait un des meilleurs épisodes de Tomb Raider. Il est vraiment fantastique, à part la jouabilité, qu'ils n'ont pas retouché, ils n'ont pas eu le temps, malheureusement. Ouais. Mais il est vraiment excellent et ça aurait dû s'arrêter là, puisque Richard Morton a décidé de tuer Lara Croft.
Oui, bah oui.
De ne pas la tuer définitivement, mais c'est-à-dire de la faire disparaître. Il y avait toute une pensée derrière de dire, voilà, on fait disparaître Lara Croft sur PlayStation 1 et elle reviendra à la vie sur PlayStation 2. Et ça, moi, je trouve l'idée fantastique. Et Eidos, ils ont passé, ils ont fait... non, et il y aura un cinquième Tomb Raider, donc qui est Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, qui est exécrable, et puis qui ne sert à rien. Voilà, qui a été rushé par l'équipe de Tomb Raider 3 et 4.
C'est un espèce de flashback incompréhensible sur les épisodes précédents. Ouais. Alors que, on l'a dit, hein, le scénario, c'est pas forcément... même s'il y a si la scénariste avait sauvé un peu les meubles du premier, c'est quand même pas, on est quand même pas sur de grands scénarios. Voilà. Et puis bah, là, on se retrouve avec un flashback entre les épisodes. Enfin, c'est
foiré. Ouais. Et puis, bah, du coup... depuis la fin de la révélation finale, en fait, il y a une toute petite équipe qui travaille sur Tomb Raider PS2 Project. C'est comme ça qu'il était appelé, parce que Core Design était dans les petits souliers de Sony à l'époque. Donc, ils avaient eu très rapidement les kits de développement. Enfin, en tout cas, même déjà dès les premières versions, ils avaient déjà les kits de développement. Il fallait Eidos. Mettez-vous au travail, il nous en faut sur PlayStation 2. Continuez. Et ça va très mal se passer en interne, puisqu'il y a une première équipe qui va, entre guillemets, travailler dessus, qui va essayer de programmer des choses, sauf que les graphistes ne sont pas vraiment en contact avec les programmeurs, donc personne ne se dit rien. Donc les graphistes font des personnages avec des polygones, mais qui explosent tout, que même une PlayStation 2 programmée à imperfection ne pourra jamais faire tourner un jeu pareil. Et c'est que le début des ennuis, quoi, parce qu'il y a l'équipe qui a été formée depuis Tomb Raider 3 qui est appelée en urgence après Tomb Raider sur les traces de Lara Croft en disant « faut sauver le truc ». Et c'est Richard Morton qui prend la décision de dire ce que vous avez fait depuis un an sur ce truc. On arrête tout, on recommence. Et voilà, et il y a eu un an de travail mis à la poubelle, le moteur 3D, de graphisme, tout a été mis à la poubelle. Donc déjà le projet PS2 a pris un an de retard. Et là, ils se sont confrontés, je dirais, peut-être à la réalité, c'est-à-dire que faire un jeu sur PlayStation 2, c'était très dur. C'était surtout que ça demandait des équipes conséquentes. Je mets en exemple Metal Gear Solid 2, qui à l'époque avait demandé, il me semble, 70 personnes pour le développement. Tomb Raider, la GTN, ils étaient 35.
Ouais.
35, ça paraît ridicule. Ouais. Et en fait, voilà, ils se sont toujours dit, bah oui, on fait des Tomb Raider à 14 ou 15 grand maximum, bah là, 35, ça va passer. Sauf que non, parce qu'il y avait un besoin de graphisme, entre guillemets, photoréaliste pour l'époque, de tout un tas de choses, et puis bah, il y a eu une fracture à l'intérieur, puisque plus personne ne savait trop dans quelle direction aller. Et il y a eu un scénariste qui est arrivé qui s'appelle Murty Schofield, qui lui est quelqu'un... que j'ai pu interviewer, qui est vraiment fantastique, qui est une personne admirable. Mais le problème de l'ange des ténèbres, c'est que ce n'est pas Tomb Raider, c'est que c'est Tomb Raider vu par Murty Schofield. Et c'est quelqu'un qui a ses thèmes de prédilection et tout ça. Tout ce qui est secte, voilà. Tout ce qui est secte, tout ce qui est très noir, très glauque, occulte, voilà, tout un tas de trucs un peu sataniques, un peu des choses comme ça. Et bah, il a essayé de transposer ça, son univers à lui, dans Tomb Raider, et ça a donné l'ange des ténèbres, qui est assez... catastrophique, voilà, et ça a été.
Je me rappelle encore de ce passage où j'ai galéré pour monter à une échelle.
Ouais,
c'est ce que j'ai tourné. J'arrivais pas à me mettre en face de l'échelle et à monter.
C'est tout un problème interne, et puis ça a causé, on va dire, en tout cas, le début de la fin de Core Design. Quoi. Ils se sont fait retirer la licence. Et
parallèlement, c'est là que se met au cinéma. Il me semble que c'est avec L'Ange des Ténèbres.
C'était un petit peu avant. Le premier film, il est en 2001,
d'accord.
Et le deuxième. Et sorti à la même période que l'ange était.
D'accord, c'est le deuxième.
Ouais.
D'accord. Oui, parce que parce qu'en fait le fiasco de l'ange des ténèbres a été plus ou moins en fait attribué au film ou non.
Alors en fait le film a attribué parce que ça n'a pas été un gros succès au cinéma le deuxième film. Ils ont dit c'est la faute de Core Design, ils ont sorti un mauvais jeu et voilà, alors que non, le film était mauvais, le jeu était mauvais, point barre. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Quoi.
Elle a un début de millénaire assez compliqué là, Lara Croft.
Oui, tout à fait. Voilà, c'est l'ange GTM, c'est impressionnant, quoi. Même d'en parler avec l'équipe, ce qui est dingue, c'est qu'on pourrait interviewer les 35 personnes qui ont bossé sur le jeu, les 35 personnes vont donner une version différente de ce qui s'est passé en interne, et c'est fou, quoi. Enfin, d'arriver à une telle anarchie dans son lieu de travail, moi j'ai même vu des personnes qui m'ont dit, on arrivait le matin, on savait même pas quoi faire. C'est-à-dire qu'on y allait à l'instinct, quoi. On regardait ce que les autres faisaient. Ah d'accord, bon, bah, je vais faire une échelle, alors. C'est complètement fou, quoi. Il y a eu des morceaux qui ont été supprimés, mais à la toute dernière minute, parce que Lara Croft, comme on l'a dit dans la révélation finale, est censée être morte. Elle devait revenir à la vie dans L'Ange des Ténèbres. Et même ce truc-là a été réalisé, mais il n'est pas dans le jeu. Mmh. La cinématique où elle revient à la vie, elle est réalisée, mais elle n'est pas dans le jeu. Et c'est fou, quoi. Donc, ce qui fait qu'on commence en GTM, on ne sait même pas comment ça en est sorti en Égypte, rien. Il y a des incohérences partout. Enfin, c'est de la folie, quoi.
Et donc, après, bah, on va malheureusement pas tarder à finir, hein, là-dessus. Mais bon, il y a un grand passage à vide, hein, ouais. après L'Ange des Ténèbres, ouais. forcément. Et puis, bah, il y a la résurrection avec, d'une part, le retour de Toby Gard, on en a parlé ouais. tout à l'heure, ouais. chez Crystal Dynamics, le changement de studio, mmh. le retour de Toby Gard, qui est peut-être important créativement, oui. mais qui est aussi une marque. Hein. Enfin, oui. c'est aussi voilà, ça a été marketé aussi ce oui, retour de, sûr, ce retour oui. du papa de voilà. Lara Croft. Et aussi, il faut le dire, des bons jeux.
C'est des, ouais, des moi jeux. J'ai Alors, dans l'ensemble, c'est des bons jeux. On ne peut pas leur dire qu'ils sont mauvais, parce que oui. c'est des bons jeux. Mais le problème de Crystal Dynamics, c'est un studio qui a toujours suivi des tendances. Plutôt que des instigateurs.
Oui, oui, oui. Alors, pourquoi et, Eidos les a choisis eux en fait
bah parce alors, que c'était, ça a toujours été un excellent studio. En fait, d'accord. ils n'ont jamais fait de mauvais jeux, Crystal Dynamics. Ils avaient fait, si on fait un rapide historique, il y avait Gex avec un gecko ou une sorte de lézard. Il y avait eu Pandemonium qui avait marqué les esprits. Il y avait aussi, et là c'est là qu'ils ont pris vraiment une importance Crystal Dynamics, c'était la série Legacy of Kain Soul Weaver. Et bah, ils ont toujours fait des bons jeux, donc du coup, vaut mieux confier Lara Croft à Crystal Dynamics. Mais c'est là aussi où je trouve, et je pense que les fans, quoi, des fois ils m'en parlent, ils essayent de me parler justement de la période Crystal Dynamics. C'est vrai que c'est ça, ils ont suivi des tendances en fait. Tomb Raider Legends, c'est une Prince of Persia avec Lara Croft, enfin le Prince of Persia ouais. de 2003 d'Ubisoft. Et voilà, si on regarde le reboot, bah, c'est Uncharted. Enfin, je veux dire, ouais. Voilà. Et on ne retrouve pas cette magie qu'il y avait dans les jeux core design, ouais. je trouve.
Bon, après, peut-être que tu es aussi un peu un regard biaisé par la nostalgie.
Pas vraiment. Non. C'est-à-dire que, objectivement, je pense l'avoir été dans le livre sur certains jeux. Tomb Raider 3, je ne vais pas dire que c'est un bon jeu. Tomb Raider 5 non plus. Mais c'est juste qu'il y a une magie. Puis il y avait une manière oui. de faire. Il y avait une touch anglaise, parce qu'ils étaient anglais. Lara Croft était anglaise. Enfin, il y avait toujours anglaise. Et donc, voilà, il y avait ce truc. Et je trouve qu'une fois que c'est arrivé avec Legend, il y avait ce côté très américain qui est arrivé, ouais. avec des explosions, des courses-poursuites en moto. Voilà. Il manquait ces moments de calme, de contempler ouais. le paysage ou des choses comme ça. C'était très action, c'était très rythmé. Mais voilà, je trouve qu'il manque un petit peu.
Tu t'es arrêté en 2008, pourquoi ne pas avoir poursuivi jusqu'à nos jours?
Parce que j'aurais fait un dico.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Non, c'est.
Et quel regard tu portes justement sur les deux derniers jeux qui sont sortis?
On ne peut pas nier que c'est des mauvais jeux, c'est des très bons jeux. Voilà, c'est des très bons jeux, mais ils ont, je pense, loupé le coche en faisant un reboot, c'est-à-dire qu'ils ont fait, pour moi, un scénario qui est beaucoup trop sérieux, qui est beaucoup trop premier degré, en fait. C'est lourd, l'ambiance, par exemple, du reboot de 2013, c'est très très lourd. Et il manque quelque chose, c'est-à-dire que c'est devenu des jeux d'action, pourquoi pas, après tout, mais... Voilà, il manque ce petit truc, on a envie d'être laissé un peu seul et de se dire « Ah bah là, il y a une paroi, j'ai envie d'y aller, il y a quelque chose. » On est très guidé quand même, mine de rien. Et puis, voilà, c'est clairement pas des mauvais jeux, ça on peut pas dire. Ouais. Peut-être ce que je dirais, c'est des jeux très scolaires. En fait, ils remplissent des cases, voilà, très beau graphisme, on a, voilà, surtout très belle animation, on a, très belle musique, on a, mais en fait, dans l'ensemble...
Et le personnage de Lara Croft, justement, dans ces deux jeux, est-ce qu'il
la nouvelle Lara Croft, c'est, je dirais, une femme d'aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, ils ont essayé de dire on n'est plus dans le stéréotype et on va créer une Lara Croft qui pourrait être une jeune femme qu'on rencontre dans la rue, voilà. Mais moi, j'aimais bien le côté justement un peu parodique de la chose. Le côté irréel de l'ancienne Lara Croft me manque énormément, quoi. C'est mon point de vue. Hein. Après, il y en a qui vont aimer le côté réaliste. Moi, c'est plutôt le côté surréaliste de la chose que j'aimais beaucoup.
Alexandre Serrel, merci.
Merci
d'être passé nous voir. Je le répète, et je le dis pas si souvent que ça, l'histoire de Tomb Raider, donc chez Pixel Love Edition, est un livre qui se lit.
Très bien écrit, plein de sources.
Et franchement, quand j'ai découvert que tu n'avais pas une expérience dans l'écriture avant et dans le fait de mener des enquêtes et des choses comme ça, ça m'a un tout petit peu bluffé, j'avoue. Et je pense que j'ai pas fini d'avoir des problèmes avec mes stations de métro. Hein, ça, c'est le truc. Mais voilà, l'histoire de Tomb Raider qui est disponible sur Internet et dans les bonnes boutiques, oui. Je pense. Mmh. Voilà. Oui, mais avant de finir, il y a toujours, c'est la question rituelle à laquelle on n'échappe pas quand on vient dans Silence on joue. Et quand tu ne joues pas, tu fais quoi? C'est un moment où tu parles de séries, de livres, de films, de choses comme ça.
Alors, quand je ne joue pas, je lis.
Et tu lis quel livre en ce moment?
En ce moment, là, le dernier livre que j'ai lu, bon, c'est pas très joyeux, c'est sur une adolescente qui s'est suicidée avec des problèmes. Elle a eu beaucoup de problèmes à l'école scolaire, et voilà, c'est sa maman qui écrit ce bouquin-là. J'ai lu ça, j'ai trouvé ça extrêmement touchant, et ça montre qu'il y a encore quelques problèmes en France sur ce.
Le bouquin s'appelle
13 ans pour toujours. Mais j'ai le trou de mémoire de cette petite fille, mais ça m'a énormément ému. Mais je lis beaucoup d'autres bouquins. Mais c'est un
Joël. Moi, je voudrais savoir à quoi tu joues, justement, parce qu'en fait, on n'a pas parlé. Donc, du coup, je passe mon tour et je veux savoir à quoi tu joues.
Ce que je joue, moi, je joue principalement à des jeux japonais. Les jeux occidentaux, j'ai un petit peu de mal, malgré ce qu'on pourrait croire. Mais là, je suis très content du retour des jeux japonais. On a eu un beau début d'année, je trouve. Et là, je viens tout juste de finir le dernier Zelda.
D'accord.
Voilà.
C'était pas le seul. Il paraît qu'il y a pas mal de gens qui jouent. Moi, je vais passer mon tour aussi parce que.
Voilà, ok.
On est bien. Comme voilà. Ça, on avait un invité. T'as géré seul cette question rituelle. Merci encore, Alexandre. Merci. Et puis, j'espère que ça va bien marcher, en tout cas, cette histoire de Tomb Raider. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur nos lives sur libération.fr et sur les internets. Ciao.